En coloc. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Je m'aperçois que je suis la seule. Il n'y a que deux communications qui démarrent avec un point d'interrogation. Donc, dans mon cas, peut-être parce que ça pouvait déjà être scandaleux de dire qu'il y avait un risque de guerre de religion dans cette question de Palestine. Pourtant, quels sont les enjeux de cette affaire? Ils sont minuscules. La Palestine dite mandataire, 22 000 km² environ, c'est-à-dire l'équivalent d'un département français et demi à peu près. Nombre relativement faible de victimes. Au doigt levé, on a 120 000 morts en 75 ans. Dans le dossier palestinien, c'est-à-dire l'équivalent de 2 ans de conflit syrien. Donc, on n'a vraiment pas grand-chose. Ressources naturelles de la Palestine, longtemps, la première exportation de la Palestine, ça a été les objets pieux, puis ensuite, ça a été supplanté par les agrumes, les fameuses oranges de Jaffa. Ça n'a donc rien à voir du point de vue des ressources naturelles à un émirat pétrolier. Position géopolitique, certes, ça a eu de l'influence du fait de la proximité avec le canal de Suez et du rôle de charnière entre les deux parties du monde arabe. Ça, c'est vrai, une importance géopolitique qui a certainement joué, mais peut-être pas de façon constante. Et surtout, ça n'explique pas l'ampleur des passions que ça suscite chez une multitude d'acteurs internationaux, l'interaction permanente entre politique extérieure et politique intérieure dans chaque pays à chaque fois qu'on aborde la question de Palestine, et le fait même que je vous en fasse un papier cet après-midi, si c'était simplement ce dossier. Alors, cette opposition Palestine-Terre d'Israël, Eretz Israël, souvent conçue comme des négations réciproques, renvoie en fait à un troisième terme qui donne la véritable définition de l'enjeu, celui de la Terre sainte. Ce qui permet de dégager un élément apparemment surprenant, puisque dans une modernité souvent définie comme un désenchantement du monde, cette sainteté suscite une montée permanente de la violence. Alors il faut évidemment essayer de définir ce qu'est la Terre sainte, ce qui est tout à fait difficile. Dans la tradition abrahamique, elle passe par des perspectives différentes selon les religions et leur subdivision. Si on prend au départ le corpus biblique, nous avons 2 approches différentes de la Terre promise. La première est celle du temps des patriarches, où les patriarches sont chez eux, sur cette terre et vivent en bonne entente avec les autres habitants de cette terre. Et puis, le second approche, c'est le retour d'Égypte, où on a une dure conquête territoriale. Quand on lit concrètement les textes, c'est presque un génocide qui est décrit dans la Bible, dans cette conquête de la terre promise. C'est évidemment anachronique, et de toute façon, les spécialistes de l'écriture biblique aujourd'hui considèrent que ça n'a rien à voir avec la réalité archéologique pour la période considérée, et que ces récits génocidaires ne sont que la transposition dans le texte biblique des réalités de l'époque assyrienne. En gros, dans le style, vous voyez, ce qu'ils font, nous, on était capable de le faire avant. Hein, mais ce qui n'a pas du tout dit qu'ils l'avaient réellement fait. Donc, terre promise, mais tout ça n'a pas beaucoup d'importance, cette critique historique, par rapport à ceux qui ont une version littéraliste des textes. À cette donnée de terre promise, le christianisme va ajouter celui d'archipel de lieux saints. Comme pour les Juifs, la destruction du temple par les Romains a été la marque d'une dépossession qui a été compensée par l'immatérialité de la Jérusalem céleste. Mais à partir de la conversion de Constantin, les chrétiens deviennent possesseurs de la matérialité de la Terre sainte, et donc l'impératrice Sainte-Hélène, la mère de l'empereur, aurait, à partir de 325, fixé la localisation des lieux de la vie du Christ, constituant donc une topographie chrétienne, qui évidemment ne correspond pas du tout aux données archéologiques actuelles, et qui se transforme de façon constante, puisque encore au début du XXIe siècle, on vient de définir comme lieu saint le lieu supposé du baptême du Christ qui se trouverait en territoire jordanien, et ça a été entre autres affirmé par Jean-Paul II par Benoît XVI, lors de son passage en Jordanie, lors de son dernier pèlerinage en Terre Sainte. La conquête musulmane du VIIe siècle constitue le troisième moment de la constitution de la Terre Sainte. Alors là, je vais parler sous le contrôle d'Anne-Marie, et j'espère qu'elle ne va pas être trop sévère avec moi. Les conquérants respectent le lieu saint chrétien et procèdent à leur tour à une opération de définition des lieux marqués par le passage des prophètes à partir d'Abraham. Ils intègrent dans la tradition islamique tout un ensemble de récits de localisation venus de l'histoire religieuse antérieure, ce qu'on appellera en arabe les Israéliyot. Et l'élément le plus notable est bien évidemment la constitution du noble sanctuaire, le Haram al-Sharif, sur l'emplacement présumé du mont du Temple, qui avait été à l'abandon pendant près de 6 siècles. La religiosité islamique s'investit au point que la région Palestine perd rapidement son nom au profit de Terre Sainte, Ard al-Muqaddasa, ou de Pays Saint, Bilad al-Muqaddasa, ou de Pays Saint, Jérusalem, devient tout simplement la ville sacrée, la maison sacrée, Beit al-Maqdis al-Muqaddasa, ou tout simplement al-Quds, la sacrée, à la ligne. Si pour les chrétiens, la Terre Sainte est le lieu de la vie du Christ, pour les musulmans, elle est la terre de la prophétie. Les chrétiens maintiennent leur pèlerinage à Jérusalem, mais suscitent d'autres pèlerinages moins lointains et moins dangereux, Rome, Saint-Jacques de Compostelle, etc. Ce n'est qu'à la fin du XIe siècle que les chrétiens occidentaux disposent de la capacité de projection de force suffisante pour pouvoir opérer un pèlerinage militaire qui prend la dimension d'une reconquête, qu'on appellera ultérieurement la croisade, et qui suscitera à son tour une reconquête musulmane. On a ainsi une règle fondamentale. La Terre Sainte redevient au centre des préoccupations religieuses quand on a ou qu'on pense avoir la capacité de s'en emparer. C'est une terre perpétuellement reconquise ou à reconquérir. Les musulmans ignorent l'idée de croisade, puisque le mot même de croisade n'entrera dans la langue arabe qu'au milieu du XIXe siècle, à la lecture des historiens européens, mais ont parfaitement conscience du danger que constitue le pèlerinage chrétien, ou plus exactement celui des Francs. La tradition musulmane attribue à Saladin ce que l'on peut appeler anachroniquement un dispositif de contre-croisade, et qui doit plutôt dater de l'époque mamelouque. J'espère que tu ne me contrediras pas trop, Anne-Marie, parce que je m'aventure dans un domaine qui n'est pas strictement le mien. La grande fête musulmane du Nabi Moussa, le prophète Moïse, est fixée en calendrier solaire afin de coïncider avec les Pâques chrétiennes pour que les musulmans soient en nombre pour faire face au pèlerinage chrétien de Jérusalem. Et les autres fêtes de prophètes sont de même fixées en calendrier solaire en fonction du pèlerinage chrétien. Il en résulte que les musulmans de la région sont investis de la charge de défenseurs de la Terre Sainte et que les sanctuaires et fêtes de prophètes définissent une personnalité palestinienne puisque ces maolides de prophètes sont recrutés essentiellement dans la population entre le Jourdain et la Méditerranée. À l'époque ottomane, c'est à noter, c'est la famille Al-Husseini qui est en charge du Nabi Moussa, donc qui organise l'ensemble de ces fêtes musulmanes de contre-croisade. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, la Palestine se trouve de nouveau hors de portée des Européens. Le pèlerinage chrétien devient résiduel, même si la querelle des lieux saints entre églises chrétiennes prend ses formes actuelles. Alors, je passe sur les détails, mais en gros, à l'époque mamelouque, quand les croisés sont définitivement liquidés, les musulmans ne connaissent que l'église catholique. Et donc, les sanctuaires chrétiens sont laissés à la custodie de Terre Sainte des franciscains. Et en revanche, au XVIe siècle, quand les Ottomans arrivent, ils amènent avec dans leur bagage les orthodoxes et les arméniens, qui revendiquent leurs droits historiques sur les lieux saints, d'où, dans les siècles ottomans, une guerre permanente de moines autour des lieux saints chrétiens. Les arméniens et les orthodoxes disposant a priori du soutien du pouvoir ottoman, puisque ce sont des églises chrétiennes reconnues par l'État musulman, mais les catholiques bénéficient de la protection des grands États catholiques, France, Espagne, etc., dans ce jeu. Avec la campagne dite de Syrie de Bonaparte en 1799, qui dévaste les régions littorales, la Palestine redevient à portée pour les Européens. Comme ils sont incapables de s'entendre pour un partage de l'Empire ottoman, ils mettent cet empire sous tutelle collective et y transposent leurs conflits. Les lieux saints chrétiens deviennent le symbole des jeux de protection des populations chrétiennes, singulièrement entre la France et la Russie, la France ayant un protectorat catholique et la Russie un protectorat orthodoxe. Ainsi, d'une querelle de moines à Bethléem en 1847, on passe à une guerre européenne en 1854-1856, la guerre dite de Crimée. Dès lors, la Palestine est un lieu névralgique des relations internationales et, d'autre part, pour faire face à cette question des lieux saints, on établit dans les années 1850 la législation dite du statu quo. Le terme même montre sa signification. Le judaïsme de la diaspora a entretenu le souvenir de la Terre Sainte, ne serait-ce du fait qu'une bonne part des fêtes juives renvoient à des pratiques agraires, qui n'ont que de sens que dans le calendrier palestinien. Dans les discours du devoir-être typique des esprits religieux, la terre d'Israël est la seule terre où l'on peut observer la loi dans toute son étendue, puisque dans un certain nombre de domaines en diaspora, la loi du pays est la loi. Le messianisme considère que la fin des temps passera par le rassemblement des Juifs en terre d'Israël et la conversion de l'ensemble de l'humanité à la vraie religion. Donc, tout projet messianisme à l'intérieur du judaïsme renvoie nécessairement à la terre d'Israël. L'une des conséquences de la réforme protestante est d'avoir fait disparaître le millénarisme des horizons du catholicisme. En revanche, le protestantisme en a fait une de ses dimensions permanentes. À partir des courants puritains de l'Angleterre de Cromwell, se construit la théologie de l'accomplissement des prophéties. L'arrivée du millénium, chose souhaitable, sera précédée par le rassemblement des Juifs en Terre Sainte, puis de leur conversion à la religion de Jésus, avec éventuellement extermination de ceux qui auront refusé de se convertir. Au-delà, la bataille finale entre les forces du bien et celles du mal aura lieu à Armageddon, en Galilée, pour les chrétiens, mais symétriquement, dans la tradition islamique, cette bataille a lieu à Lod, c'est-à-dire à proximité de l'actuel aéroport Ben-Gourion. Ainsi, dans les trois grandes religions abrahamiques, la Terre Sainte n'est pas seulement le lieu des temps anciens, elle est aussi celle de la fin à venir. Dès la fin du XVIIIe siècle, le courant de l'accomplissement des prophéties marquera l'approche anglo-saxonne du Proche-Orient et de la Palestine. Il est difficile de déterminer l'influence réelle de ce qu'on appellera au XXe siècle le sionisme chrétien, mais il est certain que cela a imprégné la perspective des décideurs britanniques de l'époque victorienne et ensuite de celle de nombre de personnalités américaines. Au-delà de ce cercle, le biblisme protestant a modelé les esprits, faisant des Juifs les légitimes possesseurs de la Terre Sainte puisqu'ils sont les acteurs de la Bible. Inversement, cette vision des choses est presque absente dans le catholicisme, qui privilégie le Nouveau Testament avec une certaine méfiance pour l'Ancien. Le sionisme n'apparaît que dans le dernier quart du XIXe siècle, quand les réseaux de communication modernes, chemin de fer, bateau à vapeur, relient de façon régulière l'Europe centrale et orientale à la Méditerranée orientale, et que les systèmes de domination européenne collective assurent une liberté d'installation en Palestine, qui devient pour la première fois depuis 19 siècles à portée pour les Juifs de la diaspora. Même phénomène que le 11e siècle pour les croisades. Le sionisme est un nationalisme construit sur le modèle de ceux d'Europe centrale et orientale avec trois critères majeurs. Il faut une langue, une religion et l'existence dans le passé d'une construction étatique dont on se revendique. Par exemple, pour créer un nationalisme bulgare, il faut une langue le bulgare, une religion l'orthodoxie chrétienne et le souvenir d'un royaume de Bulgarie. Si vous voulez être un nationalisme serbe, il faut une langue le serbe, une religion l'orthodoxie et le souvenir d'un ancien royaume qui était le royaume médiéval de Serbie. Mais partant de rien, le sionisme passe aux limites. La langue est réinventée, l'hébreu moderne, le royaume ancien est au-delà des mers et la religion est en quelque sorte à redéfinir. En effet, la très grande majorité des rabbins se méfient de ce mouvement qui est à la fois laïcisant et qui charrie avec lui un messianisme qui, en quelque sorte, se passe de l'intervention divine. Si le projet se veut territorial, afin de combattre les dangers contradictoires que constituent l'assimilation et la persécution, il a été rapidement tranché que le territoire ne pourrait être que l'ancienne terre d'Israël. Seule cette référence pouvait être capable de mobiliser les énergies nécessaires pour édifier un État à partir de rien et d'attirer les sympathies des gens de culture biblique, en particulier les sionistes chrétiens, qui chronologiquement sont antérieurs aux sionistes proprement dits. Au départ, seule une fraction juive d'inspiration religieuse suit le mouvement qui se veut modernisateur et qui, dans l'entre-deux-guerres, sera dominé par les socialistes. À partir de 1908, commencent à se dessiner les traits de la lutte pour la Palestine. La déclaration Balfour du 2 novembre 1917 se fonde d'abord sur un ensemble de considérations politiques dont certaines ont un contenu antisémite, puissant supposer des juifs capitalistes américains et révolutionnaires russes, mais elle a bénéficié de l'imprégnation biblique des milieux dirigeants britanniques formés à l'époque édouardienne. On disait que Lord George connaissait mieux la géographie de la Bible que celle de la Grande-Bretagne, qui peut aller, pour certains, jusqu'à une forme de millénarisme. De même, le mandat britannique sur la Palestine est géré par des fonctionnaires dont les références culturelles renvoient à la Bible et secondairement aux croisades. Les violences dites du Nabi Moussa d'avril 1920 marquent le basculement du dispositif de la contre-croisade de l'ennemi chrétien à l'ennemi juif. Chez les musulmans comme chez les juifs, le sacré national se confond avec le sacré religieux et une nouvelle lutte pour les lieux saints s'engage dans les années 1920. Oui, en France, on fait la distinction entre sacré national, on a l'Arc de Triomphe, les Invalides, etc., et puis le sacré religieux, Notre-Dame, Reims. Mais en Terre Sainte, ce n'est pas possible. Tous les symboles religieux sont des symboles nationaux, en tout cas pour juifs et musulmans. Il n'y a pas cette distinction. Le sacré est confondu. Alors qu'au début des années 1920, les Britanniques ont élargi la législation du statu quo aux lieux saints musulmans et juifs, s'engage une nouvelle lutte pour les lieux saints. Or, du fait même des Israéliotes, bien des éléments de la topographie religieuse biblique ont été le produit d'identifications faites par les musulmans à différentes époques. Il y en est ainsi du tombeau des patriarches à Hébron, dont le bâtiment est hérodien, mais qui a constitué dès le 7e siècle une mosquée. Beaucoup d'emplacements de tombeaux de prophètes ou de saints juifs sont à l'origine des tombeaux musulmans. Évidemment, le lieu le plus central a été le mur des Lamentations et l'esplanade des mosquées. Le mur, qui est un lieu saint en soi pour les musulmans, appartenait au Waqf, administration de main morte, du Haram al-Sharif, donc du noble sanctuaire. Et les juifs ne pouvaient venir y prier que par tolérance. Or, ces derniers ne pouvaient accepter que ce symbole à la fois religieux et national ne leur appartienne pas. Dans la seconde moitié des années 1920, la tension monte du fait des violations répétées des règles du statu quo. En même temps, le mufti de Jérusalem, Benjamin al-Husseini, a fait de la défense de la mosquée al-Aqsa et du Haram un des thèmes centraux de sa propagande. Les inquiétudes des musulmans sont avivées du fait que le symbole par excellence de Jérusalem est le dôme du roc et que la propagande sioniste à l'extérieur utilise l'image du dôme surmonté d'une étoile de David. C'est pour eux la preuve que les sionistes veulent s'emparer du haram et des mosquées. Cela aboutit aux violentes émeutes d'août 1929, dites du mur des lamentations, qui ont failli se transformer en un soulèvement généralisé de la Palestine. Dès lors, il devient clair qu'il existe deux espaces en Palestine. Le premier est une terre concrète couvrant l'ensemble du territoire et qui est l'objet d'un conflit défini par un jeu à somme nulle. Le progrès de l'un ne peut se faire qu'au détriment de l'autre. Autrement dit, le progrès de la colonisation juive ne peut être ressenti par les habitants arabes que comme un refoulement ou un cantonnement. On est là dans une situation classique de colonisation de peuplement. La seconde terre est un archipel de lieux saints qui ont une valeur à la fois religieuse et nationale pour les juifs et les musulmans, les lieux saints chrétiens étant pour l'essentiel en dehors de cette lutte. Là encore, les juifs partant de rien émettent des revendications qui ne peuvent être considérées que comme des provocations pour les musulmans. C'est là la spécificité du conflit. Si on peut trouver des analogies de colonisation de peuplement avec l'Algérie coloniale ou le Kenya britannique, il n'en est pas de même pour cette lutte quasi-existentielle pour ces lieux doublement saints. Logiquement, les Arabes de Palestine sont amenés à se chercher des alliés extérieurs, d'autant plus que les Occidentaux leur apparaissent en général en faveur de la cause sioniste. Ils font donc appel à la solidarité arabe, nationalisme arabe, et à la solidarité islamique, sans compter une référence à l'ensemble des peuples colonisés. Ceux qui ont été immédiatement réceptifs ont été les musulmans indiens. C'est dans les années 1930 que les éléments anti-juifs de la religion musulmane sont activés. Auparavant, ils étaient plutôt ignorés, c'est-à-dire qu'il y avait des choses assez malsonnantes sur les juifs dans les corpus islamiques, mais en général, ils étaient peu utilisés dans les référents. Ils deviennent très actifs à partir des années 1930 et sont confondus avec le discours antimoderne du complot juif venu de l'antisémitisme européen. Un mouvement comme celui des frères musulmans prend clairement un aspect antisémite dès les années 1930. Ils s'en prennent aux juifs d'Égypte pour exprimer leur solidarité avec les musulmans palestiniens. Au-delà, les effets de cette propagande a été l'émergence progressive d'un affrontement entre monde musulman et monde juif dans le pire des contextes possibles, celui défini par l'avènement du nazisme au pouvoir en 1933. Comme la plus grande partie du monde musulman se trouve encore sous domination coloniale, les effets de cet affrontement sont temporairement contenus. Mais après la Seconde Guerre mondiale et avec les indépendances, les communautés juives du monde arabe sont condamnées à disparaître et celles des autres pays musulmans à devenir exsangues. Dans ce processus, on doit considérer les facteurs de rejet, solidarité avec les Palestiniens, volonté d'homogénéiser la population, et les facteurs d'attraction, État d'Israël après 1948 pour les uns, attirance des pays occidentaux pour les autres. Ainsi, en même temps que le sionisme devenait majoritaire dans le monde juif, il suscitait une mobilisation islamique qui ne pouvait être limitée que par le réalisme politique de certains pays musulmans non arabes, comme la Turquie ou l'Iran du Shah. Dès l'entre-deux-guerres, des rabbins prestigieux donnent une interprétation religieuse du sionisme qui est en quelque sorte non une ruse de la raison, mais une ruse de Dieu. Les juifs séculiers ont presque par inadvertance déclenché le processus de rédemption du peuple juif et au-delà de l'ensemble de l'humanité, ce qui conduit à l'avènement des temps messianiques. La colonisation de la terre d'Israël s'inscrit donc dans la volonté divine. Ce courant messianiste a pris une importance considérable dans l'Israël d'après juin 1967. Il joue un rôle essentiel dans la colonisation de la Cisjordanie et occupe une place croissante dans les cadres de l'armée et de l'État d'Israël. Il ne faut pas le confondre avec le monde religieux orthodoxe qui a tendance à vouloir se retirer de la société tout en vivant de ses subsides, ce qui est en train de devenir un problème majeur en Israël. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre les juifs messianistes qui sont modernes, qui font leur service militaire et qui sont actifs, et les juifs orthodoxes, les Haredim, qui sont en position de retrait par rapport à l'État, même si évidemment il y a des rencontres entre ces deux grands courants du judaïsme. Ces dernières décennies, le sionisme chrétien a connu une forte résurgence dans les milieux fondamentalistes protestants, je pense que vous en parlerez, américains, avec une forte connotation millénariste. Cela les a conduits à établir une alliance avec les mouvements sionistes américains et l'État d'Israël, non sans provoquer de fortes réticences chez les juifs libéraux américains qui se souviennent de la xénophobie et de l'antisémitisme traditionnels chez ces fondamentalistes chrétiens. Le messianisme est devenu un facteur important dans la politique israélienne, d'autant plus que les ennemis arabes et musulmans sont assimilés à la totalité des ennemis d'Israël dans l'histoire, depuis les Amalécites de l'Antiquité jusqu'aux nazis du XXe siècle. Du côté musulman, on a, chez certains auteurs, tout un discours délirant sur la fin des temps qui passe de plus en plus, plus ou moins par l'extermination des Juifs lors de la lutte finale. Il est à noter que ces auteurs procèdent souvent à des emprunts, des copier-coller des sites millénaristes protestants. Alors, on n'est pas dans un conflit de civilisation, on est plutôt dans l'alliance des barbaries. Ce ne sont pas en général des autorités religieuses, mais cette littérature est très largement diffusée dans le monde arabe et au-delà, dans l'ensemble du monde musulman. En milieu chiite, spécifiquement le Hezbollah, on a clairement des références à l'arrivée prochaine du Mahdi, voire de l'imam caché. Les combattants du Hezbollah ont senti sa présence, mais ne l'ont pas vu lors de la guerre de 2006. Mais ils m'ont dit, on l'a senti, il était là. Ces apocalypses des trois religions imprègnent plutôt les comportements des acteurs qui ne les dirigent, bien évidemment. Dans la vie quotidienne, la foi religieuse est un élément essentiel de la résistance aux épreuves du temps. On a ainsi vu un durcissement des normes religieuses imposées dans les milieux musulmans à la suite des épreuves des deux intifadas. La foi est l'un des moteurs essentiels de la résilience. Donc, en conclusion, la question de Palestine est-elle exclusivement une guerre de religion? Certainement non. On l'a vu qu'une bonne part de sa problématique renvoie à celle de la colonisation de peuplement. Une autre part porte sur son appartenance géopolitique au Moyen-Orient, dans la continuité de la question d'Orient du XIXe siècle. Pour les Israéliens et pour les Occidentaux, la question de l'État d'Israël est indissociablement liée à celle de la destruction des Juifs d'Europe lors de la Seconde Guerre mondiale. Pour les peuples du tiers-monde, ce même État est un vestige anachronique de la période coloniale et les Palestiniens représentent les indigènes par excellence. Néanmoins, le conflit a bien aussi un caractère religieux, du fait même que son enjeu est la Terre sainte, et que les acteurs politiques mobilisent en permanence les affects religieux collectifs. De surcroît, la notion de peuple juif a un caractère d'exceptionnalité, dans la mesure où on lui donne le double sens de communauté religieuse et de communauté ethnique, d'où une confusion permanente et de tous les côtés entre ces deux notions. La question de Palestine est aussi un révélateur des évolutions contemporaines des grandes religions monothéistes. Le judaïsme comme l'islam se politise et se heurte en permanence au rapport difficile entre l'ordre de la loi divine et les modalités civiles de l'organisation de la société. Le fondamentalisme protestant a un projet d'ordre moral avec des velléités millénaristes, mais il reste dans le cadre d'un système pluraliste de religions en compétition. Le catholicisme, lui, se dépolitise pour aborder les grands problèmes contemporains dans une perspective définie comme éthique, l'ordre des valeurs, et non plus comme politique. D'où le fait, d'ailleurs, que le dialogue des religions devient de plus en plus difficile, puisque nous avons un catholicisme dépolitisé par rapport à deux autres religions qui, elles, se politisent. Voilà, donc j'ai terminé. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non. Thank you.